Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Quelle est belle l'église de Rodez. On a coutume d'entendre dire aujourd'hui que l'église serait morte et les chrétiens bien rares dans notre société. Aujourd'hui, le diocèse de Rodez fait la preuve du contraire. Plus de 3000 personnes se pressent actuellement à la cathédrale Notre-Dame. 3000 personnes venues être lancées en mission en conclusion d'un synode. Explication.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission donc au chevet de la cathédrale Notre-Dame à Rodez, donc dans ce diocèse où autour du plateau nous sommes avec, je vais vous présenter nos invités et vous redire pourquoi nous sommes ici, comment dire, dans ce diocèse, en ce dimanche après-midi, autour du plateau Monseigneur Fonluc, qui est l'évêque du diocèse. Bonjour Monseigneur.
Bonjour et bienvenue.
Voilà Philippe Seigne Vialex, vous êtes secrétaire général de ce synode. Bonjour.
Bonjour.
À côté, à vos côtés donc Isabelle, bienvenue. Bonjour. Vous êtes vous animatrice en pastorale à Villefranche de Rouergue. Bonjour. Jean-François Bouge, vous êtes, vous, responsable des taximesses. Vous nous parlerez. Vous êtes au service du diocèse. Vous êtes un retraité, donc, de ce diocèse. Bonjour.
Merci.
Et Lucette Perroux, vous êtes co-secrétaire générale de ce synode. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Monseigneur Fonlu, on a déplacé nos studios, on s'est mis dehors pour ce grand événement de votre diocèse, puisqu'aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Voilà, dans quelques minutes, il y aura, après, à la fin de cette émission, il y aura un lâcher de ballon. Que signifie ce lâcher de ballon? C'est-à-dire qu'on avance. Aujourd'hui, quelle est la particularité de cette journée? À quoi il faut s'attendre pour la suite?
C'est une journée étape très importante, puisque elle a été rendue possible par la marche ensemble que nous avons vécue pendant 2 ans, puisque le synode a été initié au mois de mai 2015, et donc pendant 2 ans, que ce soit en petite équipe locale ou pendant la dernière année en assemblée synodale qui a rassemblé 200 personnes. On a essayé de regarder la vie de notre Église au cœur de la société et du monde dans lequel nous vivons, de nous interroger sur ce qu'elle vivait, sur les difficultés qu'elle rencontrait, sur les forces et les appels qu'elle pouvait aussi accueillir. Et elle s'est demandé, et nous avons essayé de nous préciser de quelle manière nous pouvions avancer.
Donc ça, c'est le travail du synode. En fait, c'est une espèce de grand travail de réflexion avec tous les catholiques du diocèse pour essayer de... Tout se réapproprier en fait la vie de l'Église, c'est
ça? Tous ceux qui ont voulu entendre la proposition. Donc c'était à la fois un moment important, je pense, de prise de conscience, parce que pour beaucoup de chrétiens, s'arrêter, se retrouver avec quelques personnes, 7 ou 8, régulièrement pendant une année, c'est vraiment déjà le temps d'un partage, le temps d'un dialogue, le temps de réaliser un peu plus clairement ou concrètement ce que vit notre Église et les difficultés qu'elle peut connaître, les nouveautés aussi qu'elle rencontre, les transformations, et puis essayer de se dire à partir de là qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Christ nous appelle à vivre.
Exactement. Alors aujourd'hui, en quelques mots, cette journée, donc elle a commencé bien avant maintenant 16h.
Qu'est-ce
qui s'est vécu aujourd'hui?
Il s'est vécu 2 étapes importantes. Une première ce matin qui était des forums qui correspondaient aux 5 grands axes de réflexion qui ont animé le temps du synode, hein, autour de célébrer, d'accueillir, de communier, d'éclairer, de servir, hein, des points forts de notre vie ecclésiale, et où les personnes pouvaient passer de l'un à l'autre comme un lieu d'écho déjà d'initiatives vécues dans les paroisses, comme déjà un petit écho de ce qui avait surgi de l'Assemblée synodale, et comme une manière de nous stimuler, de nous inviter à vivre cette dynamique-là pour tous ceux qui étaient présents.
Alors, peut-être qu'on va quand même commencer par faire connaissance un peu avec votre diocèse, puisque nous, donc, on émet dans tout Midi-Pyrénées, et c'est toujours beau de découvrir en fait les réalités d'Église. Chaque diocèse a un peu son histoire sainte, ses particularités. Comment vous présenteriez à ceux qui sont à l'autre bout de la région votre diocèse, on va dire les grandes forces et les faiblesses, avant qu'on fasse un peu d'histoire? Commençons par les forces. Faut toujours dire le positif en premier.
D'abord, nous sommes sur une terre ou dans un département qui est magnifique, qui mérite d'être connu. Donc, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, il faut qu'ils n'hésitent pas et qu'ils se sentent invités à y venir. Humainement et géographiquement, c'est un lieu splendide.
Vous voulez dire que vous voulez prendre d'autres fidèles à d'autres diocèses, c'est ça? Vous faites comme Emmanuel Macron avec
les
scientifiques américains, c'est ça?
Qu'ils repartent, tout simplement, mais qu'ils puissent en profiter.
Voilà, au moins en vacances, en tout cas.
Voilà. L'église de l'Aveyron, c'est une église qui est très riche de son histoire. Elle est née vraisemblablement au 5e siècle, autour de Saint-Amand et des premiers missionnaires qui ont transmis l'évangile sur cette terre. Hein. Donc elle fait vraiment partie de cette période d'évangélisation de la Gaule.
Qui était une terre donc païenne.
Oui, qui était une terre païenne, marquée par des traditions plus anciennes et plus éparses. C'est une terre qui a accueilli l'évangile et qui lui a donné un déploiement étonnant. Un des signes qui pour moi est toujours frappant, c'est de voir qu'au XIIe siècle, à la suite de Saint Bernard, il y a eu très rapidement 6 communautés monastiques cisterciennes qui se sont installées en Aveyron.
Puisqu'il faut dire que Saint Bernard semble-t-il un peu lassé de certaines difficultés, en tout cas c'est ce qu'on lit sur le site de votre diocèse, certaines difficultés de son ordre, en fait, seraient venues ici et il aurait trouvé là une terre très accueillante.
C'est pas impossible que Saint Bernard soit venu, en tout cas son charisme et son élan missionnaire s'est développé ici.
Ah bon, vous voyez, j'ai mal lu alors.
Et donc au XIIe, il y a eu toute une vie monastique qui à la fois a façonné spirituellement, mais aussi a aidé le territoire à se développer et à travailler la terre avec l'énergie et la capacité qu'il pouvait avoir à l'époque.
Donc ça donne quelques grandes abbayes. Vous pouvez peut-être donner les noms aussi.
Oui,
de
Bonneval, qui est toujours où il y a toujours une communauté de religieuses cisterciennes, des trappistines. Bonnecombe, Sylvanès au sud de l'Aveyron, Beaulieu en Rouergue, et puis je pense aussi à Noninck. Voilà.
Est-ce que, pour ceux qui ne connaissent pas, hormis vous avez cité Bonneval, est-ce qu'il y a encore des communautés monastiques importantes qui sont de...
Alors Sylvanès, c'est un lieu du sud où il n'y a plus de communauté, mais c'est un lieu d'animation culturelle et cultuelle importante autour de l'abbaye et de tout le travail qu'a accompli le frère André Gouze. Les autres sont Noninck, qui est un lieu qui accueille actuellement une communauté de chartreuses féminines, chartreuses de religieuses dans le charisme de Saint Bruno. Et puis Beaulieu est plutôt un lieu d'accueil touristique, en Rouergue, qui n'est plus dans le diocèse de l'Aveyron, mais qui est dans le diocèse de Montauban. Et puis lequel j'oublie, je sais plus.
Peu importe, en tout cas, donc il y a une période donc de floraison, on va dire monastique. Et puis après, évidemment, on avance à grands pas. L'Aveyron a été pendant longtemps, alors pardon, c'est pas du tout pour être indélicat sur la période actuelle, parce que de toute façon, ça concerne à peu près toute la France, mais une terre profondément chrétienne et même une terre de missionnaires.
Chrétienne et missionnaire. Au XIXe siècle, les familles ici étaient des familles nombreuses qui avaient beaucoup d'enfants et beaucoup d'entre eux ont orienté leur vie, que ce soit comme prêtre, comme religieux, comme religieuse ou comme missionnaire. Et la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle ont été une période tout à fait étonnante.
Mais une des régions les plus missionnaires de France.
À ce titre-là, je pense. Ouais. Oui, je pense. Et on a un certain nombre de familles qui pourraient retrouver dans leur histoire où nous parlait d'un oncle, d'une tante qui sont partis à tel ou tel endroit et dont certains l'ont aussi payé du témoignage de leur vie. Le tout dernier missionnaire qui vient d'être béatifié, c'est le père Lucien Galland, qui est originaire de Gaulignac, qui est rentré dans la Société des Missions étrangères de Paris, qui est parti comme missionnaire en Chine, puis comme il a été expulsé de Chine, qui a été envoyé au Laos et qui a été qui est mort dans un attentat et donc martyrisé en 1968.
Et qui a été béatifié.
Et qui vient d'être béatifié avec les 17 autres personnes qui sont considérées comme les fondateurs de l'Église du Laos.
Alors, je voulais aussi qu'on s'arrête sur deux autres figures avant de parler un peu plus du temps présent. L'idée, c'est pas de faire une émission que sur l'histoire du diocèse, mais quand même, il y a une belle et une grande histoire ici. Deux autres figures. La première, c'est Émilie de Roda, qui est donc sainte aussi.
Oui.
Autour de laquelle donc existe aujourd'hui, enfin à sa suite, une congrégation religieuse, ça s'appelle la congrégation de la Sainte Famille.
Tout à fait.
Dites-nous un peu quelques mots de cette Émilie de Roda et puis en quoi sa vie est significative aussi de cette histoire sainte du diocèse.
Alors Émilie de Roda, milieu du 19e siècle, qui a fondé cette congrégation de la Sainte Famille à Villefranche de Rouergue, parce qu'elle a été très tôt très frappée par le déficit d'éducation et de perspectives humaines et spirituelles chez beaucoup d'enfants de familles pauvres et en particulier pour les filles, puisque son charisme a au départ, je crois, été davantage développé pour l'éducation des jeunes filles. Voilà. Et donc elle a fondé cette congrégation à Villefranche qui s'est développée, s'est démenée beaucoup pour créer des écoles dans les communes, dans les petits bourgs du département et permettre que petit à petit une éducation humaine, une formation et un éveil aussi religieux soient proposés à beaucoup. Puis depuis, cette congrégation, à la suite aussi des aléas de l'histoire, a a été obligée de s'élargir, a été amenée à s'élargir. Elle est devenue aujourd'hui une congrégation internationale. Et je crois que c'est ce qui en fait aussi sa richesse, parce qu'elle est renouvelée et stimulée par les vocations qu'elle peut accueillir de différents pays.
Voilà, comme beaucoup de congrégations apostoliques aujourd'hui de cette époque, qui vivent surtout des vocations, on va dire, des pays dits en voie de développement. Juste, Lucette Pérou, on est fier quand on habite un diocèse comme ça. C'est quand même une belle et grande histoire, non? C'est pas rien.
Oui,
mettez bien le micro dans la bouche. Est-ce que vous êtes fier de votre diocèse?
Oui, je suis très fier de mon diocèse.
Il y a des choses qui vous marquent dans cette histoire, justement, comme ça, ces figures comme Émilie Droda. Est-ce que c'est que des histoires, que des noms comme ça qu'on entend, ou est-ce que de fait, c'est, je sais pas, ça aiguillonne dans sa vie chrétienne, ça?
Venant d'un territoire plus rural, je suis plus marquée par, si vous voulez, la marche de ces hommes, de ces femmes à travers, la JAC aussi, un certain nombre de prêtres qui nous ont aidés à être des chrétiens. Voilà. Je connais un peu moins Émilie Droda, mais
on va en parler
voilà,
dans un moment.
Ce sont des parcours qui nous inspirent.
Exactement. Alors peut-être juste, il y a une autre figure quand même dont je voulais qu'on parle. Vous êtes habitué, hein, mais c'est le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus qui a aussi été béatifié cette année. Voilà, qui est une grande figure spirituelle, on va dire, du XXe siècle en France, et qui donc est né chez vous dans l'Aveyron, je crois, à Le Gard.
Il est né au Gard, dans le bassin de Cazeville, hein, qui était.
Je suis pas d'ici, hein, donc.
Qui était à l'époque, oui, mais c'est comme Le Puy, vous voyez, on dit il est né au Puy.
Ah, d'accord.
Lui, il est né au Gard, hein, qui est un petit village dans le bassin de minier de Cazeville. Il est rentré au séminaire et il a été ordonné prêtre au grand séminaire de Rodez. Et ensuite, il a été très vite, il a souhaité rentrer dans la congrégation des frères Carmes. Et ça a été d'ailleurs une rupture assez forte avec, pas avec son diocèse, mais avec sa famille. Sa maman
a eu beaucoup
de mal à accepter cette décision. Et donc après, il a eu une trajectoire assez impressionnante dans l'ordre des Carmes, et il a fondé assez rapidement l'Institut Notre-Dame de Vie, qui est aussi une manière de proposer la spiritualité du Carmel, donc qui est une spiritualité de la prière, de l'oraison, de la recherche de Dieu de manière assez intense. Et il a souhaité que cette spiritualité ne soit pas réservée à quelques religieux, mais qu'elle puisse être proposée à des laïcs qui puissent la vivre de différentes manières. Et donc Notre-Dame de Vie est aussi un des lieux maintenant qui, avec une branche féminine assez importante, avec une branche masculine et aussi une branche de prêtres, continue à vivre de cette spiritualité-là.
Voilà, il a écrit son grand livre, c'est « Je veux voir Dieu ». Alors je vous ai demandé donc quelles étaient un peu les forces et les fragilités de votre diocèse. Vous avez commencé par en raconter son histoire. Vous n'avez pas botté en touche, mais comment vous résumeriez un peu la situation actuelle? Je ne sais pas, le nombre de prêtres, de religieuses. Quand vous êtes arrivé en 2011, qu'est-ce que vous êtes dit? Voilà, dans ce diocèse, voilà les grandes richesses et voilà peut-être les pauvretés.
On n'est pas dans un lieu où il y a beaucoup de glaciers, mais l'image qui m'est venue quand j'ai pris conscience de la réalité humaine et ecclésiale ici, c'était de parler d'une rupture de sérac. Vous savez, les glaciers, quand ils glissent progressivement, il suffit qu'il y ait une rupture de pente pour que parfois ils se cassent brutalement. Et je crois que l'aventure de notre église, c'est un peu une rupture de cet ordre-là, parce que tout simplement la réalité agricole, rurale et sociale s'est transformée très fortement. Et du coup, la vie de l'Église qui l'accompagnait et qui la soutenait s'est trouvée aussi un peu désarçonnée, un peu déplacée. Et donc ça date des années 70-80, et on a vu un mode de vie qui s'est transformé, et où du coup la présence de l'Église, qui auparavant était très centrale, la vie s'organisait dans la commune autour du clocher, autour du curé, autour de beaucoup de propositions qui se passaient par la vie et par les mouvements ruraux. Et tout ça, petit à petit, s'est fragilisé, s'est amenuisé, a commencé à disparaître. Et ça laisse un peu tout le monde démuni aujourd'hui, parce que on a tous quelque part en tête et dans le cœur la mémoire de ces années-là qui sont pas si éloignées, et on risquerait de se dire un peu, mais comment faire pour retrouver ça? Alors je crois qu'un des enjeux, c'est de se dire, ne cherchons pas à retrouver ce qui a été, hein, ne rêvons pas du passé, mais essayons de trouver aujourd'hui ce qui est possible et quel chemin nous avons à vivre pour être aujourd'hui cette église que Christ nous invite à être.
Alors on va faire une première pause, mais je voulais juste que vous me disiez un petit mot des Aveyronnais. Je vous ai entendu dans une autre émission dire ce que vous pensiez d'eux, et je crois que ce que vous retenez d'eux, c'est que c'est des gens très courageux, très travailleurs, et aussi qui du coup, face aux difficultés, semble-t-il, ont Une mentalité. Alors aujourd'hui, on dirait une mentalité de gagnant, mais
vous avez bien écouté ce que j'ai dit. Alors, hein, c'est vrai. Moi, je suis auvergnat. Je suis pas véronnier. C'est un trait de tempérament.
C'est presque la même chose, non?
C'est pas si différent que ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas très différent. Mais je crois effectivement qu'une des grandes forces des Aveyronnais, c'est de savoir que la vie se mérite, que la vie s'accueille, mais que la vie se mérite. Et je suis impressionné de leur énergie, de leur capacité au travail, de leur manière de s'engager, de durer, de leur ténacité, et du coup aussi de leur espérance et de leur confiance. Et c'est vrai qu'une manière de les caractériser, c'est que, alors que parfois on voit des personnes qui peuvent être abattues par les difficultés, bien ici je trouve que très souvent, les difficultés rencontrées sont pour eux une occasion de les stimuler et de leur donner l'énergie qui leur permet de dépasser cette difficulté-là. Et je crois aussi que le travail synodal que nous concluons aujourd'hui et que nous célébrons est un peu révélateur de cela. Et nous sommes mis ensemble en face d'un certain nombre de questions. Et je crois que nous nous sommes manifestés aujourd'hui tout au long de ce jour combien nous étions capables de prendre ça à bras le corps et de nous laisser stimuler par l'esprit.
Voilà, en tout cas, un beau et grand travail donc du diocèse de Rodez à l'occasion de ce synode et qui donc en cette fête de la Pentecôte célèbre la Pentecôte évidemment, mais aussi donc les conclusions de ce synode. On va faire une première pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite après.
Joie, il est au milieu de nous.
Voilà, c'était donc pour avancer ensemble l'hymne de ce synode du diocèse de Rodez.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission Vivante Église. Donc aujourd'hui, j'allais dire ce matin, mais non, en direct de Rodez. Donc nous sommes au chevet de la cathédrale Notre-Dame en cette journée de conclusion. Donc vous allez donner les conclusions de ce synode. Évidemment, c'est pas la conclusion de la vie chrétienne du diocèse. Au contraire, c'est le début donc d'une grande aventure en cette journée de Pentecôte. Donc Festi 12 en cette journée de Pentecôte à Rodez. Autour du plateau, Monseigneur Fonlu, donc évêque du diocèse, Philippe Seigne-Vialex, qui est donc secrétaire général de ce synode, Lucette Pérou, qui est donc co-secrétaire général de ce synode, et puis Isabelle Bienvenue, qui est animatrice en pastorale à Villefranche de Rouergue, et Jean-François Bouge, qui est retraité et bénévole au service du diocèse, entre autres pour une initiative dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle les Taximesses. Alors, Monseigneur Fonlu, nous avez présenté à gros traits ce diocèse. Merci d'avoir fait cet effort pour tous ceux qui n'en sont pas familiers. Vous avez pris cette image là du glacier. Donc, vous sentiez presque quoi, un diocèse au bord de la rupture, en tout cas qui a vécu une rupture importante. Pourquoi vous avez voulu lancer ce synode? Donc, vous êtes arrivé en 2011. Vous avez commencé par une visite pastorale. Il y a quoi, 36 paroisses, c'est ça, dans le diocèse?
36 paroisses. Et pourquoi déjà ont été réorganisées dans les années 2000, au tout début des années 2000. Donc, il y avait eu tout un travail qui avait été fait par mon prédécesseur. Et du coup, ça a été facile pour moi d'aller dans chacune des paroisses, d'y être accueilli et de découvrir bien des aspects de la réalité humaine, de la réalité sociale, de la réalité économique et puis aussi de la réalité ecclésiale. Et donc, ces deux années de visite m'ont amené à écrire une lettre pastorale et que j'ai proposée aux diocésains comme déjà une première lecture de la réalité de notre Église. Et c'est à partir de là...
Donc ça, c'était en 2013.
Ça, c'était en 2013. Et donc, il y a eu toute une année déjà avec des équipes qui se sont constituées pour lire cette lettre. Et comme il y a eu un bon dialogue qui s'est instauré, je me suis dit, poursuivons, n'hésitons pas à aller plus loin. Et donc, dans la restitution du travail sur la lettre pastorale, j'ai, dans la foulée, proposé d'ouvrir la célébration de ce synode pour 2 ans.
Alors, c'est quoi un synode? Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi une habitude dans l'Église, en fait, d'avancer quelque part ensemble, puisque des synodes, il y en a même au Vatican. Il y a eu récemment donc le synode pour la famille, réuni par le pape François. Il y en a même eu 2. Ça a donné lieu à cette fameuse exhortation apostolique à Amoris Laetitia. Je sais pas, un synode, ça sert à quoi? Alors, je souhaiterais que Monseigneur Fonlu fait signe à Philippe Seigne Vialex. Qu'est-ce que c'est qu'un synode? Faites-nous le synode pour les nuls.
Alors, le synode, c'est marcher ensemble. Donc, c'est une consultation de l'ensemble du peuple chrétien sur un thème que nous a donné notre évêque, qui est disciple missionnaire pour que tous les hommes aient la vie. Donc une consultation très large de l'ensemble du peuple chrétien du diocèse.
Alors comment vous y prenez? Vous envoyez un questionnaire à tous les chrétiens, vous les mettez dans les boîtes aux lettres? Ou ça veut dire quoi une consultation dans ces cas-là? Comment on s'y prend après?
Eh bien avec Lucette et les autres membres du secrétariat général, on a réfléchi justement à la manière d'impliquer le plus grand nombre de chrétiens du diocèse. Et donc nous avons conçu un cahier de marche en 8 étapes qui a été travaillé par des équipes synodales qui se sont constituées dans l'ensemble du diocèse, donc plus de 200 équipes qui ont travaillé sur ce cahier de marche.
Donc c'est les petits groupes donc de catholiques qui
se réunissent. Ce sont des petits groupes de 5 à 10, 12 personnes qui se sont réunis 8 fois et qui ont franchi les étapes une à une, qui ont réfléchi au thème que nous leur avions soumis.
Donc au départ, le thème, c'est quand vous avez organisé ça avec donc cette invitation de disciples missionnaires. Est-ce que là, il y avait plus de précision ou il y avait juste cette phrase?
Non, il n'y avait pas plus de précision, effectivement. C'était d'accord. Comment être toujours plus et mieux disciples missionnaires en cette terre du Rouergue. Et donc les équipes ont travaillé ces différentes étapes. À mesure qu'elles travaillaient, elles renvoyaient au secrétariat général le fruit de leurs réflexions. Et on a donc constitué une compilation de toutes ces réflexions qui ont constitué la base de travail ensuite de l'Assemblée synodale.
Alors vous avez du coup un bâton, c'est ça? Alors le bâton, il est distribué aujourd'hui ou vous l'avez reçu dès le début?
Non, le bâton a été distribué le jour de l'ouverture du synode à Seignac.
Voilà.
Donc c'est un bâton qui symbolise la marche synodale.
Donc chaque groupe avait son bâton de pèlerin, comme ça, c'est ça?
Alors les bâtons ont été distribués aux paroisses, donc un par paroisse, un par congrégation religieuse, un par mouvement, un par service, un pour chaque membre du secrétariat général et un pour chaque membre également des commissions qui étaient en soutien du secrétariat général pour l'aider dans son travail.
Il faut dire aussi que vous avez le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui passe chez vous, non? C'est pour ça que vous avez eu l'idée du bâton ou non? Parlez bien devant le micro parce que si vous parlez pas devant le micro, je vous entends pas.
Non, l'idée du bâton, elle est liée à la marche.
Ah bon, d'accord. Alors,
on peut marcher sur ce chemin de Saint-Jacques.
C'est vrai.
Mais aussi de bien d'autres manières.
En effet. Donc ce synode a eu lieu. Donc il a eu lieu donc de 2015 à 2017. Vous l'avez dit, donc c'est près de 2000 personnes, j'ai cru comprendre, donc, qui se sont rassemblées, qui se sont réunies, près de 280 équipes, 200 membres dans le synode, bref, vraiment une grande mobilisation dans le diocèse. Et donc aujourd'hui, vous avez promulgué, c'est ça, ces conclusions. Alors on ne va pas tout raconter, hein, vous me disiez que ça s'était organisé un peu autour de 5 items, vous avez dit tout à l'heure, peut-être que vous pourrez les rappeler. Quelles sont les grandes lignes? Voilà, imaginez... Vous deviez nous résumer au-delà des fidèles catholiques du diocèse ou des fidèles du Christ, l'exhortation que vous leur adressez. Comment vous résumeriez ces conclusions, en fait? Qu'est-ce qui est ressorti de cette grande
conclusion? Ce qui m'a frappé, là, le travail émane véritablement de l'Assemblée synodale, qui au total s'est retrouvée sur 7 journées complètes, hein. Les 200 personnes qui étaient membres de l'Assemblée synodale.
Vous le précisez parce que c'est beaucoup, c'est ça, ou...
C'est beaucoup, bien sûr. Cette journée, dites, c'est pas rien, hein. Ça fait une grosse semaine de travail, hein. Et donc, ça a été un vrai travail de discernement. Et ce que moi j'ai reçu comme évêque avec beaucoup d'importance et de force, les propositions qui m'étaient adressées, hein, qui se sont décantées, définies progressivement au fil de ces différents week-ends. Alors je vais pas tout résumer et on aura besoin aussi de les découvrir et de les mettre en œuvre. Donc c'est bien clair que tout ne se conclut pas aujourd'hui.
Déjà juste, pardon, excusez-moi, j'ai souvent des incises, mais vous avez été surpris ou touché par l'ampleur de cette mobilisation?
J'en étais heureux.
Les fidèles ne sont pas payés de mots en l'occurrence.
Non, tout à fait. Et puis je pense aussi que ce qui m'a beaucoup frappé, oui, c'est un moment qui nous a donné à voir la conscience des chrétiens de leurs responsabilités et leur manière de s'engager, quoi. Je crois que c'est une expérience qui nous fait prendre une véritable conscience aujourd'hui que l'Église, c'est pas quelques-uns, mais l'Église, c'est vraiment nous tous qui en avons la responsabilité et c'est par chacun de nous qu'elle manifeste son visage aujourd'hui, quoi. Alors un point important que je retiens, mais on pourra après compléter par la voix des uns et des autres, moi j'étais frappé sur l'importance qui est donnée à la place de la parole, hein, en se disant...
La parole de Dieu,
en se disant on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être disciple, puisqu'on voulait se demander ce que c'était qu'être disciple, si on ne se met pas à l'écoute du Christ, à l'écoute de sa parole. Et donc ça suppose de le connaître, ça suppose de le rencontrer, ça suppose de lire l'écriture, ça suppose d'être aidé pour la comprendre, ça suppose de se retrouver pour la partager avec d'autres, ça suppose de se rassembler pour la célébrer. Et il y a un certain nombre d'initiatives ou de propositions qui ont été formulées dans ce sens-là, qui insistent avec beaucoup de force là-dessus. Et je trouve que c'est maintenant une vraie responsabilité pour que nous nous attachions à faire des propositions qui permettent de mettre cela en œuvre. Une autre que je soulignerai, c'est une insistance très forte sur la fraternité. Alors fraternité, on en parle, on sait que c'est écrit sur les frontons de nos bâtiments publics.
On sait moins que ça a une origine souvent chrétienne.
La fraternité, voilà. C'est une belle manière de parler des chrétiens. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on parle des frères. Donc la manière de qualifier ceux qui témoignaient du Christ ressuscité, c'était de dire qu'ils avaient une manière de vivre les uns avec les autres qui était une manière fraternelle. Et donc là aussi, il y a un vrai souci pour que nous sachions faire vivre la fraternité dans nos paroisses, dans les lieux où nous nous rencontrons, là-dedans, et que là aussi, il y a des choses à imaginer. La fraternité, ça peut être pour prier, ça peut être pour partager, ça peut être pour s'engager dans un soutien concret ou un acte de solidarité, ça peut être pour réfléchir et pour participer à un mouvement. Il y a bien, bien des manières de vivre en fraternité, et je le souligne aussi très fortement par rapport aux prêtres. Ça m'a amené moi aussi dans les nominations dont j'ai commencé à annoncer quelques points forts à la fin de la célébration. Ça m'amène aussi à inviter les prêtres à vivre leur ministère dans une fraternité avec d'autres.
Ça, c'est une bonne illustration quand même. Est-ce que vous pouvez souligner ce volet, puisque c'est une des conclusions du synode, en fait, où vous allez...
D'inviter aussi les prêtres, voilà, aujourd'hui, à ne pas vivre leur ministère autant qu'il est possible de manière...
Mais c'est plus qu'une invitation, c'est une incitation...
De les appeler, tout à fait, concrètement. Okay. Et donc, de les inviter par doyenné, donc sur des territoires un petit peu plus vastes, à penser leur manière de vivre la mission, mais aussi de vivre leur rencontre fraternelle et leur quotidien de manière plus habituelle ensemble et plus fraternelle.
Donc vous les invitez à vivre en fraternité de prêtres aujourd'hui?
Tout à fait.
Voilà, ça a été décidé justement tout à l'heure, ça fait partie des promulgations.
Absolument.
Donc vous dites la parole, la fraternité, enfin vraiment ne pas se piller de mots et être réellement frère, et peut-être alors les autres, Lucette Perrault.
Oui, il y a eu aussi des propositions d'action autour de la recherche de d'autres formes de présence auprès des personnes, que ce soit en ville ou à la campagne, notamment à travers la proposition d'un bus qui pourrait aller, se déplacer pour créer un espace d'échange et de dialogue.
Alors ça, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, ce que ça illustre, c'est quoi? C'est le désir de trouver de nouvelles manières d'annoncer, c'est ça?
Oui, voilà. Ou aussi, derrière, on peut voir chercher de nouvelles formes de présence aussi de l'Église.
Voilà.
Que ce soit aussi dans les territoires plus ruraux ou en milieu urbain aussi, dans les quartiers.
Voilà, puisque donc les items, c'est donc communier, ça vous nous avez dit un mot, évidemment, c'est entre autres autour de la parole de Dieu, accueillir, donc c'est l'importance de la vie fraternelle, il y a donc aussi célébrer, et donc il y a aussi éclairer. Alors, donc j'ai cru comprendre aussi, en tout cas le mot est utilisé, se lancer résolument dans la nouvelle évangélisation. Voilà, donc ça aussi, oui. C'est quand même c'est un terme fort. Oui. Comment vous le comprenez, vous, Lucette Perrault, se lancer dans la nouvelle évangélisation?
C'est vrai qu'on peut l'apprécier de manière assez différente de par notre diversité. Pour moi, se lancer dans la nouvelle évangélisation, ce serait surtout chercher comment nous pouvons être les compagnons, les compagnes des hommes et des femmes de ce temps. Pour témoigner de notre vie chrétienne, mais aussi pour écouter, entendre, parce qu'on reçoit aussi du monde, je crois. Voilà, moi je le vois un peu comme ça, mais bon, on peut avoir des manières différentes de l'apprécier et de le vivre.
Alors Philippe Seine-Vialex, comment vous le comprenez? C'est quand même, c'est pas rien. Évidemment, on comprend que derrière tout ça, chacun y met entre guillemets sa sensibilité d'église, mais c'est quand même une manière d'acter qu'on se lance résolument dans une voiture qui était déjà là, mais qu'on rechoisit en tout cas.
Alors éclairer, c'est aussi directement en lien avec disciples missionnaires, c'est donner de l'espoir, c'est faire découvrir la parole, faire découvrir le Christ et avoir un horizon. Et on parle beaucoup d'un monde qui a perdu ses repères. Nous, on en a un, et éclairer, c'est aussi notre responsabilité de missionnaire.
D'accord. Est-ce que vous auriez des exemples ou illustrations dans vos activités pastoral ou dans votre vie personnelle, du fait que les gens justement attendent qu'on leur parle comme ça, qu'on leur parle du Christ, ou qui est-ce que ça intéresse les Aveyronnais?
Alors éclairer ou bon, moi je pourrais donner un exemple qu'on vit actuellement dans ma paroisse, c'est-à-dire on a proposé largement de découvrir l'encyclique du pape François Laudato aussi. Donc ça a permis de rencontrer des personnes qui ne fréquentent pas l'Église, pas du tout, d'autres donc qui sont des chrétiens, et d'instaurer un dialogue autour de donc cette autour de l'encyclique Laudato Si, qui est une parole aussi de l'Église par rapport à l'environnement.
Et qui a touché très largement. Et qui a touché très largement et qui touche, voilà. Donc semble-t-il, assez largement.
Ça permet un dialogue et de pouvoir aussi témoigner comme chrétien, mais aussi d'entendre ce que peuvent nous dire des personnes plus éloignées.
Philippe Selvélex, est-ce que vous auriez une illustration aussi comme ça de cette attente qu'auraient les Aveyronnais qu'on aille à leur rencontre pour les écouter, mais aussi pour leur parler de Dieu?
Alors, pas uniquement les Aveyronnais, je pense que c'est une attente générale.
Oui, oui, mais là, on est quand même chez vous, donc...
Oui, bien sûr, mais...
je vous demande des illustrations, j'en ai pour d'autres diocèses, mais...
Mais c'est par exemple ce que l'on peut faire dans le mouvement chrétien des cadres, où l'on échange sur la manière de vivre sa foi dans le monde du travail. Donc, il ne s'agit pas d'être avec un étendard pour dire qu'on est croyant, mais c'est vivre sa foi dans le monde du travail et que ça transpire dans ce que l'on fait au quotidien, avec toutes les personnes avec lesquelles on travaille, les problèmes que l'on rencontre, qu'elles rencontrent, être à leur écoute, etc. Donc effectivement, ça fait partie de cette mission éclairée et de cet esprit missionnaire.
Monseigneur Fonlu, même question, est-ce que vous auriez des illustrations comme ça qui vous viennent en tête et qui, pour votre cœur de pasteur, enfin vous rappellent de temps en temps, j'ai le souvenir récemment d'avoir, je ne saurais pas retrouver la citation exacte, mais qui disait que le pasteur à un moment est... Comment dire, sans la blessure un peu, ou en tout cas les attentes du peuple qu'il est censé conduire et rejoindre, et c'est ça qui habite son cœur. Est-ce qu'il y a des rencontres comme ça ou des visages qui vous
aident à comprendre ? Je pense aussi à des chrétiens dans des territoires vraiment ultra ruraux, si on peut parler ainsi, quoi, et qui sont très sensibles à une proximité, une manière de rejoindre les personnes, quoi. Alors, parfois des personnes qui peuvent être en précarité avec une dimension de soutien, de solidarité. Il y a des organismes ou des associations dans lesquelles des chrétiens, mais pas uniquement des chrétiens, sont très investis pour cela. Mais je pense aussi des soucis de proximité. C'est et essayer de nous permettre d'éprouver que jamais nous ne sommes seuls, quoi. Mais il y a toujours quelqu'un ou des personnes qui viennent nous rejoindre ou que nous pouvons rejoindre. Et beaucoup, alors ça fait pas beaucoup de bruit, ça, mais c'est aussi une... Je suis très admiratif, moi, des gens qui portent cette préoccupation-là et qui vivent sans s'en vanter, mais qu'ils vivent vraiment, quoi.
Le bien ne fait pas de bruit.
Voilà.
Peut-être pour finir, avant qu'on fasse une deuxième pause, parmi les grandes conclusions de ce synode, vous voudriez ajouter quelque chose ? Donc il y a l'aspect parole de Dieu, enfin se recentrer sur la parole, la fraternité, donc enfin l'annonce, en tout cas aller à la rencontre de nos contemporains.
Mais je
tout y que... est ou ?
Oh, tout n'y est pas. Non, il y a 80 pages à lire, hein, donc...
On renverra vers la lecture des actes, évidemment.
Je soulignerai quelque chose de festif, vous voyez. Je trouve que la journée d'aujourd'hui aussi le manifeste. Cette journée, les gens sont heureux d'être là, sont heureux de se retrouver. Il y a un bonheur d'être ensemble. Et dans les propositions qui ont été votées au synode, il y a un appel à ce que chaque paroisse, chaque année, puisse faire une assemblée paroissiale. Alors ça pourra prendre dans le concret des formes bien différentes, mais ça veut dire qu'on a besoin aussi de se retrouver, ne serait-ce que pour bien se connaître, pour mieux se connaître ou se reconnaître, et puis apprécier, pas simplement dans une liturgie, mais au-delà ou plus largement autour d'une liturgie, apprécier d'être rassemblés, de se retrouver fraternellement autour de notre foi. Oui, on retrouve une autre dimension de la fraternité. Il y a cette même attente pour que tous les deux ans, alors on verra si on tient le rythme ou pas, mais que tous les deux ans, il puisse y avoir une initiative diocésaine de cet ordre-là aussi. Oui. Si nous sommes moins nombreux, si parfois nous nous sentons un petit peu éparpillés ou dispersés, il y a d'autant plus ce besoin parfois de nous rassembler, de repartir renouvelés, regonflés, parce que nous aurons vécu ensemble.
Voilà, donc on va faire une deuxième pause musicale, Église en fête justement, qui est un chant qui a été composé justement pour cette journée de fête, et puis on vous retrouve tout de suite après en direct de Rodez.
Tu nous unis, Église en fête, pour que
Cette émission Vivante Église, donc en direct depuis Rodez. Nous sommes donc au chevet de la cathédrale Notre-Dame en cette fin de journée à l'occasion donc de cette Pentecôte pour ce grand rassemblement Festidouze. Je vous rappelle, autour du plateau, si vous nous prenez en cours de route, Monseigneur Fonlu, évêque du diocèse, Philippe Seigne Vialex, qui est secrétaire général de ce synode, ainsi que Lucette Pérou, qui est donc co-secrétaire général de ce synode, et puis Isabelle Bienvenue, qui est donc animatrice en pastorale à Villefranche de Rouergue, et Jean-François Bouge, qui est donc retraité, bénévole au service du diocèse, à qui on va donner la parole dans un instant. Alors on va finir cette émission en donnant quelques illustrations des actions qui ont été décidées, puisqu'il y a des actions qui ont été décidées pour que ça ne reste pas juste des actes du synode que Monseigneur Fonlu publie et que les gens lisent et s'empressent d'oublier. Vous avez, semble-t-il, décidé un certain nombre d'actions. On compte sur vous. On viendra même faire une émission, vous voyez, peut-être l'année prochaine, pour voir si vous avez mis en place toutes vos actions.
On vous attend.
Voilà. Donc, en tout cas, Isabelle, bienvenue avec vous. On voulait parler d'une de ces actions qui a été décidée, c'est d'essayer de généraliser ce qu'on appelle des maisons de vie. Voilà, c'est une manière d'illustrer cette dimension fraternelle qu'on veut vivre. Alors déjà, à quoi ça ressemble, une maison de vie? Et puis, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour les développer?
Alors, à quoi ça ressemblera? Parce que ce sont les initiatives. Mais à Villefranche-de-Rouergue, nous avons déjà été un petit peu largement dans cet esprit, puisque le presbytère a été rénové et donc a été transformé en maison paroissiale.
Alors, c'est quoi une maison de vie?
Une maison de vie, c'est un lieu où l'on vit, la maison.
Mais il y a quoi concrètement, je veux dire?
Alors,
il y a des prêtres qui habitent, des familles,
oui,
des gens qui viennent travailler.
Alors, c'est le presbytère qui a été rénové de deux manières. Donc, il y a d'abord eu les appartements des prêtres qui ont été rénovés. Et il y a trois appartements, ce qui permettra, on en a parlé tout à l'heure, la communauté pour les prêtres aussi, une vie plus fraternelle. Ainsi, c'est plus juste le presbytère, la maison du curé. C'est une maison où il peut y avoir plusieurs appartements. C'est le cas à Villefranche-de-Rouergue, où il y a deux appartements et un studio.
Mais donc, il n'y a que des prêtres qui vivent là-bas,
non,
par contre?
Non, justement. C'est dans une partie de la maison paroissiale. L'autre, c'est le lieu d'accueil. Alors, il y a une banque d'accueil, un hall spacieux où des permanents se relaient pour accueillir les personnes. Et il y a surtout des lieux où l'on travaille. Donc, moi, je suis animatrice en pastorale. J'ai mon bureau ici. Il y a le bureau d'une secrétaire. Il y a une grande salle de réunion qui peut accueillir une cinquantaine de personnes, une plus petite, une petite cuisine. Donc, c'est un lieu où ont lieu les rencontres des équipes d'animation paroissiale. C'est un lieu où on accueille surtout le public. Alors, c'est intéressant parce que C'est au cœur, au pied de la collégiale à Villefranche. Les gens circulent, la maison est visible, ce qui est une nouveauté parce que le presbytère avant, un presbytère, c'était une maison, j'ai envie de dire, comme tant d'autres, qui était repérée un petit peu à la plaque. C'était la maison du curé. Aujourd'hui, c'est une...
On ose rentrer dedans.
On ose rentrer, même plus que ça, parce que... à partir du moment où c'est ouvert toute la journée, il y a aussi une chapelle à côté, hein, qui est un lieu où donc les gens peuvent venir aussi prier, se recueillir. Il y a une grande cour, c'est ouvert en permanence, il y a des personnes qui se relaient, donc 9h midi, le soir jusqu'à 18h. Donc les gens peuvent entrer et circuler librement.
Donc là, l'idée, c'est du coup d'essayer de généraliser ces maisons, c'est ça, ces maisons de vie?
Oui.
Et d'en
oui,
ouvrir oui. quoi dans chaque paroisse, dans chacune des 36 paroisses du diocèse?
L'enjeu, c'est de voir si on est capable de basculer un tout petit peu par rapport à des presbytères qui pouvaient être des lieux plus ou de vie du prêtre ou un peu administratif où on vient pour des questions précises, en faire des lieux de respiration habituelle de la vie paroissiale, c'est-à-dire un lieu où on sait qu'on peut venir, on trouvera quelqu'un avec qui on peut prendre un café, on peut échanger, on peut se retrouver pour une réunion, mais on peut aussi passer gratuitement. Enfin, vous voyez, que ça soit un lieu de... Dans une maison, on sait qu'on y va, on y rentre, on en sort, il s'y passe quelque chose.
On est chez soi.
Et on a besoin un peu de créer, de trouver une manière de créer dans chaque paroisse un lieu qui offre cette dynamique-là, quoi. Alors, ça va s'inventer de façon différente, parce que chaque paroisse a sa physionomie, mais... C'est un peu ce pari-là.
En tout cas, l'incitation, c'est pareil, ça fait partie des actes du synode. Vous incitez à ouvrir des maisons de vie.
Absolument, c'est une incitation très forte et il nous faudra travailler peut-être pour nous donner des idées.
Est-ce que vous aviez d'autres remarques sur Isabelle? Bienvenue. Je sais pas, vous dites que vous avez travaillé là-bas, ça vous a touché, ça vous a aidé
oui,
à avoir une autre vision de l'Église,
que,
peut-être?
Oui, parce qu'en fait, c'est aussi le lieu où on va regrouper l'ensemble des personnes qui travaillent sur la paroisse. Donc, c'est important pour la mission de pouvoir travailler avec d'autres. Quand on est animateur en pastoral, on est sur un secteur un petit peu précis. Ici, on se voit, on se côtoie. Donc c'est très très important. Il y a aussi les personnes qui viennent, qui nous rencontrent, les gens qui demandent un baptême, un mariage, les parents du caté. Donc ça fourmille un petit peu. Donc c'est extrêmement important. On n'est pas, si vous voulez, chacun dans son coin. On travaille ensemble et ça c'est extrêmement important. La visibilité et la proximité.
Alors Jean-François Bouge, vous donc je disais vous êtes retraité, vous donnez du temps pour le diocèse. Enfin, vous donnez du temps plutôt à Dieu, hein, au Christ, mais via le diocèse. Et donc, entre autres, donc, vous avez en charge ce qu'on appelle les taximesses. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces taximesses? Et puis après, on verra en quoi ça fait partie des actes d'essayer de booster ces taximesses, probablement à l'échelle du diocèse. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que ces taximesses déjà?
Le taximesse est un service d'église abordable à tous. Et on doit penser à acheminer les personnes qui souhaitent se rendre à la messe. Il existe déjà du covoiturage, mais le covoiturage doit être intensifié, mais le taximesse ne vient pas en concurrence. C'est pour que la personne soit indépendante.
Alors il y a quoi? Il y a un numéro de téléphone, alors, par exemple, nous pour avons, où les gens peuvent appeler pour avoir leur taximesse?
C'est-à-dire que les personnes, c'est à la demande, téléphonent au secrétariat de la paroisse pour pouvoir exprimer leur souhait d'aller vers une messe. Et ensuite, ils doivent, de façon très précise, confirmer leur participation le vendredi après-midi pour que on puisse organiser des circuits et fixer des rendez-vous précis. Il y a des chauffeurs bénévoles qui sont là, qui doivent... Chacun a ses engagements. Le chauffeur doit respecter ses horaires, mais la personne transportée doit être aussi fidèle au rendez-vous, ne pas faire attendre.
En tout cas, donc ça existe à Rodez.
Ça existe à Rodez.
Voilà. Et l'idée, ça serait de le développer donc sur tout le diocèse. C'est
tout
ça,
à fait. On pourrait le développer sur tout le diocèse dans la mesure où, avec le regroupement des paroisses, je prends par exemple la paroisse Saint-Guiral en Aubrac. Pourquoi un taximesse ne n'irait pas à Curière, à Cassejoul, récupérer des personnes? Je pense aussi à la paroisse de Saint-Vincent du Vallon, à Marciac. Le dimanche matin, il y a le marché et il y a la messe. Donc, on peut associer l'utile à l'agréable. Et aussi, pourquoi pas créer le taximesse qui serait une sorte de transport à la demande? Et nous sommes en train de signer des conventions de partenariat avec les établissements style maison de retraite qui ont des minibus de 9 places qui peuvent, comme c'est un service d'église, on est couvert par les assurances et on peut pouvoir transporter les personnes qui, vous savez, regarder la messe à la télé, c'est une chose quand on ne peut pas faire plus, mais participer à une Eucharistie, pouvoir vivre l'Eucharistie, pouvoir communier, c'est autre chose. Et toutes les personnes qui ont participé au taximesse sur Rodez retournent ravies de pouvoir avoir pu assister à une messe.
Et Dieu sait si c'est un service d'église important, parce que je sais qu'en tout cas, parfois, d'ailleurs, pour les personnes âgées, ça rend des services considérables. Et puis, souvent, quand on est à un certain âge, on n'ose pas peser sur la vie des autres. Et donc, quand il y a un service qui est proposé comme ça, naturellement, bah, c'est parfois la vie de certaines personnes qui peut être transformée.
C'est-à-dire tout à fait. Et puis, c'est une
leur vie d'église n'est pas rompue, quoi.
C'est une manière de manifester la proximité des uns aux autres, hein, le service des uns aux autres.
Alors, il y a de multiples choses, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais insister encore sur deux autres initiatives. Alors, peut-être au risque de vous surprendre, je voudrais plutôt parler de l'école, des écoles de l'intériorité. Voilà. J'ai vu ça parmi les actions. Ce serait donc d'essayer de créer des écoles. Ça fait écho, je me souviens, à ce que disait Jean-Paul II dans sa lettre sur le rosaire. Voilà, ça date un petit peu. Maintenant, c'était au début des années 2000, où il disait que les paroisses, il fallait qu'elles deviennent des écoles de prière. Et c'est vrai que parfois, on peut passer sa vie, en fait, à aller à la messe, mais jamais savoir comment on fait pour prier. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est quelle ça, forme prendraient ces écoles d'intériorité,
Monseigneur? C'est lié à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'attente autour de la place de la parole. Et cette proposition, qui a été votée de manière importante, nous dit ce besoin que nous avons de nous aider à vivre l'intériorité. Vous voyez, on est dans un univers qui fait du bruit, qui s'agite, qui peut nous disperser de bien des manières. Et laisser se creuser en nous un peu cet espace qui va être l'espace de la rencontre avec plus grand que nous et avec le Christ et avec le mystère de Dieu, c'est quelque chose d'important sur lequel on peut s'aider.
Alors, quelle forme ça pourrait prendre? Est-ce que vous avez...
Alors, j'allais justement dire qu'il nous faut l'inventer, ça. Il nous faut l'inventer. Ça, je peux rien vous dire de concret parce que ça va dépendre de... Mais il faut que une équipe travaille là-dessus, hein, pour se demander de quelle façon. Est-ce que c'est des lieux, des journées, des propositions, des espaces? Il y a sûrement des choses à chercher. En tout cas, ce qui est très important, moi, j'entends très fort cette demande-là. Vous voyez,
on a besoin. Les gens manifestent. On dit, on voudrait apprendre à prier, c'est ça? Ou on voudrait
On voudrait une école de l'intériorité, c'est-à-dire on voudrait s'aider à accéder un peu à ce qui est intérieur en nous, quoi, et auquel souvent on accède si difficilement, quoi, hein, parce qu'on s'en donne pas les moyens, parce que peut-être on en a peur, parce qu'on sait pas trop comment. Hein. Et donc comment l'Église peut aussi nous accompagner, nous aider sur ce chemin-là, quoi. Alors les formes, j'espère qu'on sera suffisamment imaginatif. Hein. On pourrait penser, il y a des écoles de la foi, il y a des écoles de prière, donc il peut y avoir des éléments de cet ordre-là, mais il faut toujours des personnes pour soutenir ça. Mais en tout cas, peut-être que, vous voyez, laissant des espaces de silence dans nos célébrations, en sachant parfois s'arrêter véritablement, on peut s'aider sur ce chemin-là, quoi.
Et puis, je voulais qu'on finisse l'émission peut-être en ayant un focus sur une autre action ou une autre proposition. Ça serait de créer un comité diocésain éthique et social. On sait qu'il y a un certain nombre de diocèses qui ont des comités comme tels. Qu'est-ce que vous diriez de ce comité? À quoi il pourrait ressembler?
Alors là, on n'est pas tout à fait sans rien, parce que je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de chrétiens qui, humainement et au nom de leur foi, sont engagés dans la vie sociale, dans la préoccupation par rapport à ce qui peut toucher la vie des personnes et qui sont engagés là-dedans. Il y a aussi des chrétiens qui favorisent un peu un dialogue. Hein, on l'évoquait dans le sud du diocèse, où il y a un certain nombre d'initiatives qui permettent d'échanger autour de questions avec, pas simplement entre chrétiens, mais avec des acteurs de la vie sociale.
Alors ce comité, ce serait quoi? Ce serait une espèce d'observatoire, un lieu de réflexion?
Ce comité, c'est le souhait qu'il y ait un lieu qui rassemble cela et qui puisse un peu le stimuler. C'est-à-dire quelques personnes.
Et avoir une parole publique, si j'ai bien compris aussi, non?
Ou permettre à ce que des gens investis dans la vie publique se retrouvent et se parlent ensemble. Que l'Église puisse accueillir l'expertise de gens qui lui sont extérieurs, qu'elle puisse apporter aussi sa réflexion et sa propre sagesse, puisque elle propose quand même assez habituellement une réflexion sur beaucoup de domaines, et puis que ce lieu-là puisse être un lieu de parole publique et un lieu aussi qui rayonne ou qui stimule des initiatives plus localement.
Voilà, et ben merci beaucoup de nous avoir accueillis donc au chevet de cette cathédrale aujourd'hui en cette grande fête Festidouze, en cette fête de la Pentecôte pour les conclusions de ce synode du diocèse de Rodez. Un grand merci à Pascal Fournier qui est délégué diocésain à la communication et à l'information pour le diocèse pour son aide dans la réalisation de cette émission. Et merci à vous et longue vie au diocèse de Rodez où j'espère vous nous réinviterez. Merci. Cette émission a été réalisée par Yannick Galupini. Vous pouvez la réécouter demain matin à 9h en direct et demain soir à 21h. Vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi.